Or Galates chapitre 4, verset, on va commencer pour dans les petits paragraphes du verset 1 à 7. Je lis. Je dis cependant, sur autant de temps que l'héritier est infantile, il ne porte de côté et d'autre aucune chose d'esclave, étant maître de tous. Mais il est sous des administrateurs et des légistes de maison jusqu'à l'extrémité de la journée fixée d'avance du Père. Ainsi aussi, nous, lorsque nous étions infantiles, sous les éléments du monde nous étions, ayant été esclavagés. Donc là, Paul, il dit, voilà, un héritier, quand il est infantile, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous aussi, quand on était infantile, on était, si je puis dire, asservi à certaines choses, à savoir, là, verset 3, il dit, les éléments du monde. Et après, Paul va dire un truc intéressant, il va préciser, ayant été esclavagé. Donc il va préciser, oui, on était asservi à des choses, comme l'héritier quand il est infantile, il est asservi à des administrateurs des légistes de maison. Au verset 2, il dit bien il est sous des administrateurs des légistes de maison. Sous-entendu, il est asservi à eux, il est sous leur domination. Donc nous aussi, quand on était infantile, on était dans ce cas on était dans cette situation-là. Mais il va quand même préciser au verset 3 qu'on était esclavagé. À l'inverse de l'héritier, qui lui ne porte de côté et d'autre aucune chose d'esclave. Et donc par conséquent, il y a cette différence entre nous quand on était infantile et l'héritier. Et du coup, on peut se dire, mais du coup, si on était esclavagé, est-ce que vraiment on était héritier quand on était infantile? A priori, on dirait pas vraiment. Et puisque celui qui est héritier et infantile, il ne porte et d'autre aucune chose d'esclave. Donc c'est une manière de dire que on n'était pas héritier avant, quand on était infantile. Mais plutôt esclave. Mais esclave, n'est-ce pas? Après, il continue disant, « Lorsque cependant vint la plénitude du temps, le Dieu envoya au dehors son fils, ayant devenu du sortant d'une femme, ayant devenu sous une loi, afin que les personnes sous une loi, il ait acheté au dehors à l'agora, afin que nous ayons reçu l'adoption filiale. » Donc là, mais afin que nous ayons reçu l'adoption filiale. Ce qui signifie finalement que nous n'étions pas fils à ce moment-là. D'accord ? Et puis, quand on regarde ensuite ce que dit le texte, mais entre parenthèses, en ce que cependant vous êtes fils, le Dieu envoya au dehors le souffle de son fils envers vos cœurs, croissant en bas le Père. Donc ferme la parenthèse. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Si cependant fils aussi héritier de parents. Donc là, verset 7, quand on le rattache au verset 5, nous fait comprendre que Dieu envoya son fils afin que on reçoive l'adoption filiale, sous-entendu qu'on n'était pas fils, de sorte à ce qu'on ne soit plus esclave, mais fils, puisqu'on aurait reçu l'adoption filiale. Et en étant fils, on serait du coup héritier. Sous-entendu qu'on n'était pas héritier quand on n'était pas fils, c'est-à-dire quand on était esclave. Ce qui rejoint ce que j'ai dit il y a quelques instants par rapport au verset 3. Maintenant, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au verset 5, il dit pas « afin que les personnes esclaves » ou « afin que les esclaves aient acheté au dehors l'agora afin que nous ayons reçu l'adoption filiale », ce qui rejoindrait le verset 3 quand il dit « ayant été esclavagé » ou le verset 7 quand il dit « de sorte que tu n'es plus esclave ». Donc là, verset 5, il ne dit pas que la cible des personnes qui vont recevoir l'adoption filiale, c'est-à-dire l'héritage, qui vont devenir fils, etc., il ne dit pas que c'est des esclaves. Parce que au verset 3 et verset 7, il semble dire qu'on est esclave. Mais pourtant, verset 5, on a l'impression qu'il ne cible pas les esclaves, c'est-à-dire nous. Alors qu'on voit bien qu'au verset 7, il s'agit de nous. Puisqu'il dit, tu n'es plus esclave, mes fils. De sorte que tu n'es plus esclave, mes fils. Donc on sait qu'il s'adresse à nous, qu'on est concerné par cette action de Dieu, d'avoir envoyé son fils, qu'on est concerné par l'action de son fils, le rachat de son fils. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui sont concernées par ce rachat, il ne les appelle pas esclaves comme on était, comme le texte en a parlé, mais il les appelle personnes sous une loi. Et de là, donc, on peut rattacher le fait d'avoir été esclave avec le fait d'avoir été sous une loi. Comme si c'était semblable, finalement. Et du coup, je dirais simplement que Paul, ici, est en train de nous dire, voilà, il y a eu un moment donné, on était infantile, d'accord, avant que le Fils vienne nous racheter, on était des personnes esclaves et infantiles, qui n'étaient pas héritières, qui n'étaient pas fils. On n'était pas fils, on n'était pas héritier, mais on était esclaves, on était infantiles, on était sous les éléments du monde. On était esclaves. On était sous une loi. Mais le Fils est venu et nous a donné, on a reçu l'adoption filiale, faisant que on est passé de l'état d'esclave à celui de fils, et par cela, si je puis dire, aussi héritier. Et donc je dirais que le point principal de ce premier paragraphe du verset 1 au verset 7, c'est de resituer un peu les choses, de rappeler les choses aux Galates, de situer les choses par rapport à ce qui s'est passé avec Jésus-Christ qui est venu, en ce que voilà, avant vous étiez esclaves, maintenant, grâce au rachat de Jésus, vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes passé de l'esclavage au fait d'être fils. Vous êtes passé au fait d'être sous une loi, au fait d'être fils, d'être héritier. Et du coup, si tu n'es plus esclave, et si tu n'es plus sous une loi, eh bien, vis en conséquence. Ne te remets pas en esclave, ne te remets pas sous une loi. Ça, c'est sous-entendu, ça, c'est moi plus ou moins qui le commente. Mais ça, on va pouvoir le voir ensuite, du verset 8 au verset 10. Et maintenant, concrètement, quand il dit « afin que les personnes sous une loi soient rachetées », qu'est-ce que reçoivent l'adoption finale? Qu'est-ce que, concrètement, c'est que cette loi? Bah, finalement, c'est la loi d'un salut par les œuvres, n'est-ce pas? En tout cas, c'est moi ce que je comprends du texte. Et donc on peut comprendre que, voilà, avant, ils étaient dans un salut par les œuvres, mais quand le fils est venu, il leur a donné l'intelligence, grosso modo, comme dit notre passage du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et il leur a offert le salut, de sorte qu'ils sont plus esclaves à une loi pour avoir le salut. Mais ça a été offert gratuitement par le rachat du fils. Voilà. Maintenant, il y a une chose intéressante, ce qui est dit au verset 4, c'est que ce fils-là, il est dit, ayant devenu sous une loi, c'est-à-dire qu'il s'est mis sous une loi, afin que les personnes sous une loi, il a acheté. Comment ça, il est devenu sous une loi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que quand on reprend ce qu'on a dit pour les personnes sous une loi, ça signifierait que le fils, il se soit mis sous un salut par les œuvres, finalement. Pour que les personnes qui sont sous une loi, qui étaient sous une loi, il les a achetées. Mais alors, comment ça? Depuis quand est-ce que le fils de Dieu serait soumis à une loi pour le salut? Quant au salut, ben finalement, c'est vrai que c'est ça, en fait. Pourquoi? Parce que effectivement, le Fils de Dieu, il était soumis au fait d'être crucifié, de devoir être crucifié, de devoir être livré à la main des pécheurs, de devoir ne jamais pécher. C'est-à-dire qu'il devait satisfaire un certain nombre d'œuvres pour sauver ceux qui étaient prisonniers de la mort, prisonnier de la condamnation éternelle, de l'enfer. Il devait ne jamais pécher, être le Messie, finalement, parce que sinon il était comme ceux qui méritent l'enfer, car les pécheurs, leur part, c'est dans les temps ardents de feu et de soufre, tous les menteurs, les incrédules, etc. Donc s'il commence à devenir comme eux, ben, il n'est pas capable de les pécher, de les sauver. Et puis, il fallait qu'il soit crucifié. S'il n'avait pas enfin qui meurt pour le péché, si je puis dire. Donc s'il n'avait pas fait toutes ces choses-là, eh bien, il ne nous aurait pas sauvés. Donc il fallait, pour nous sauver, qu'il accomplisse un certain standard. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Donc c'était clairement par les œuvres. C'est-à-dire que pour nous sauver, il s'est mis sous une loi d'œuvre. En mode, bon, bah, il va falloir que tu ne pèches jamais. Bon, bah, il va falloir. C'est-à-dire le faire le. Voilà, il va falloir que tu ne pèches jamais. Bon, il va falloir que tu sois livré à la main des pécheurs, que tu sois crucifié, que tu ressuscites après, etc., etc. Et quand tu auras fait ça, eh ben, tu seras vraiment le sauveur des personnes qui, de base, ont une part dans l'enfer. Donc oui, le Fils de Dieu, il s'est mis, il est devenu sous une loi pour sauver ceux sous une loi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant à comprendre au verset 4. Voilà. C'est-à-dire que nous, il nous a offert un salut par la foi en ayant, lui, vaincu d'une certaine manière un salut par les œuvres. Ce que nous ne pouvions pas faire, c'est-à-dire nous sauver nous-mêmes par nos propres œuvres, lui, il l'a fait, finalement, d'une certaine manière, parce qu'il a ressuscité. C'est-à-dire, il s'est pas laissé emporter par la mort. Il a réussi à vaincre la mort. Et n'est-ce pas de sa propre puissance, de sa propre nature, qu'il a ressuscité, de qui il est, quand il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, ce que nous ne pouvions pas faire, à savoir nous sauver nous-mêmes, nous ressusciter, si je puis dire, nous-mêmes, nous faire vivre nous-mêmes, n'est-ce pas? Bah lui, qui est la vie et la résurrection, bah il s'est sauvé lui-même en ressuscitant, comme il l'avait dit. Et par là, nous a finalement aussi sauvés à nous tous qui avons mis foi en lui. Maintenant, comment comprendre le verset 6? En ce que cependant vous êtes fils, le Dieu envoya au dehors le souffle de son fils envers vos cœurs croissant en bas le Père. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il veut dire en quoi est-ce qu'on serait fils. Parce que juste avant, il nous parle d'adoption filiale. Que nous ayons reçu l'adoption filiale. Et du coup, entre parenthèses, ce qu'il veut dire, c'est d'où ça sort cette idée d'adoption filiale, d'où ça sort cette filialité, en fait. Donc, en ce que, on pourrait aussi le comprendre d'une certaine manière comme un quant au fait d'être fils. Le Dieu, ou alors, vous êtes fils, comment? En ce que Dieu a envoyé à dehors le souffle de son fils envers vos cœurs croissant en bas le Père. C'est en cela qu'on peut voir, qu'on peut comprendre qu'il y a eu une filialité, qu'il y a une filialité. Voilà. Et du coup, à la fin du verset 7, il va dire, si cependant fils, aussi héritier de parents en moins. Et donc, au final, il dit, voilà, de base, vous étiez esclaves, ensuite Jésus est venu. Il vous a donné la filialité. Et par la filialité, grâce à ça, vous êtes devenu héritier. Et être héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir l'Esprit promis, être justifié, être sauvé, en fait. Et du coup, il en arrive à là. Et en fait, c'est un synonyme que de dire être libéré, de dire ne plus être esclave. Voilà. Et il précise de par un oint. Sous-entendu, c'est pas par vous. C'est pas par vos travaux, vos œuvres, vos forces, mais c'est par un oint, par le fait que ce oint est sorti d'une femme, qu'il était envoyé de Dieu, qu'il est venu pour racheter, que c'est grâce à lui, par un oint, au final, que vous êtes héritier. Mais au final, vous êtes héritier, étant fils. C'est-à-dire que vous n'avez pas à chercher à acquérir cet héritage par vos propres forces. Vous n'êtes plus esclave, voilà. Du coup, j'aimerais revenir quelques instants sur l'expression sous les éléments du monde, nous étions. Quand Paul nous dit ça, bah, c'est un peu quelque chose de nouveau pour nous. On n'a jamais vu dans les Écritures jusqu'alors l'expression les éléments du monde, n'est-ce pas? Donc, comprendre ça, comme ça, du premier coup d'œil, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc il s'avère qu'en fait, quand on regarde les versets 8 à 10, on est plus des détails concernant ces éléments du monde. Donc je propose de revenir par la suite, après, sur cette expression, quand j'aurai, ou pendant que je commenterai les versets 8 à 10. Comme ça, vraiment, le contexte qui sera, je pense, vraiment utile pour comprendre cette expression pourra nous aider, on ne va pas le délaisser. Parce que je pense que là, vraiment, pour comprendre cette expression, il faut s'aider de ce qu'on a versets 8 à 10. Parce que sinon, il pourrait y avoir, je pense, toutes sortes d'interprétations pour cette expression. Donc voilà, avant d'émettre telle interprétation, telle autre interprétation, telle autre interprétation, etc., je préfère d'abord voir, qu'on voit ensemble les versets 8 à 10.